aujourd'hui la première de multiples chemins. J'aimerais dédicacer cette première à Cornuel Alat, avec qui nous avons fait le début, avec les amis qui sont là autour de cette table, de partage d'idées à cinq. Et c'est devenu presque une passion. Alors, Benjamin Roule,
Gabriel Price,
Pierre Telderon,
Paul Elamberger,
Nicole Bourguet
sont nos premiers invités, Paul Elamberger et Nicole Bourguet. Ils ont beaucoup d'expérience à nous expliquer. Tu veux interroger Jean-Paul Elamberger, Gabriel?
C'est-à-dire, moi je n'interroge pas, je pense que Paul va parler de lui-même. Je veux simplement le présenter en quelques mots devant lui, sans le gêner trop. Je ne ferai pas de compliments trop longs. Mais pour retracer un petit peu ton itinéraire, tu as été élevé, d'après ce que j'ai entendu, dans des cavernes mystérieuses qui se trouvent en Afrique du Sud. Alors ensuite, j'ai entendu que tu étais devenu pasteur, mais aussi paléontologiste ou paléontologue, comme il vous plaira. Et tu t'es intéressé aux étoiles, tu t'es intéressé à la grammaire du gaulois, de la langue des Gaulois qui habitaient nos pays dans les anciens temps. Et maintenant, j'aimerais bien que, enfin, quand tu te seras représenté toi-même un petit peu, que tu nous parles plutôt de ce que tu as pu observer concernant le temps, à la fois à travers ton expérience des langues bantoues et aussi à travers tes différentes observations. Dans l'observation des étoiles, recueil de mots des langues anciennes qui étaient parlées ici dans la péninsule européenne, et puis aussi à travers ton travail sur les traces des dinosaures et d'autres animaux.
Tout ça, c'est un bon programme.
C'est beaucoup de choses. Pour résumer ma vie, vous l'avez peut-être déjà lu dans le magazine protestant du CEP, j'ai connu moi-même, on peut dire, six vies successives. J'ai connu ma première vie jusqu'à 13 ans, passionné de la création, dans l'église missionnaire du Lesotho, environné de la spiritualité de conquérante, de la joie de l'évangile dans ce peuple du Lesotho. Pour moi, ça a été la sphère la plus précieuse qu'on puisse imaginer. En même temps, mes parents étaient des gens pleins de culture et à chaque moment de loisir, on allait étudier la nature. Mon père nous initiait aux empreintes de dinosaures sur les rochers. Avec lui, j'ai commencé dès mon jeune âge à sillonner les cavernes préhistoriques des Bushmen qu'on appelle Kram, c'est difficile à prononcer, pour décalquer les peintures et puis finalement apprendre leur langue. À l'âge de 11 ans, j'ai commencé à faire un premier dictionnaire de langue préhistorique dans ce pays. Ça a été la première partie de ma vie. La deuxième partie de ma vie, ça a été à l'âge de 13 ans, il a bien fallu que je quitte mon école buissonnière pour venir habiter en France, être pris en pension pendant que mes parents étaient restés là-bas au bout de l'Afrique. Je veux dire que mes grands-parents, l'un et l'autre, avaient déjà été missionnaires dans ce pays. Tous les deux ethnologues, missionnaires, pasteurs, mais en même temps passionnés, l'un des beaux-arts, mon grand-père Frédéric Christol, et c'est lui qui a rendu à France un grand service en faisant connaître pour la première fois l'art des cavernes, et mon autre grand-père, mon grand-père paternel, passionné de l'ethnologie et de l'histoire des Soutos, qu'il a reconstitué sous presque 1000 ans de durée. Dans cette ambiance extraordinaire, j'ai connu mes 13 premières années. La deuxième partie de ma vie, il y en a donc 6, ça a été de traverser en Europe, de m'inscrire, de passer un examen de passage pour entrer au lycée. Je n'avais jamais été pratiquement à l'école, et j'ai donc fait le lycée, et l'année suivante, en cinquième, et même j'ai sauté la quatrième parce que j'étais habitué à travailler seul, et à l'âge de 18 ans, j'ai passé à l'université. J'ai passé mon bachot dans la case de la Sorbonne et j'ai fait mes études de théologie non sans peine à travers les années de guerre, mais tout en menant cette deuxième partie de ma vie qui était culturellement tellement intéressant. Je faisais en même temps de la paléontologie, en souvenir de ma jeunesse, de l'astronomie, en me construisant un observatoire pour étudier la planète Mars.
Là, ce n'était pas en souvenir d'eux, c'était en volonté de connaître.
Et oui, c'était la passion de la découverte du monde de Dieu. Donc, je menais simultanément, comme dans ma jeunesse, le cadre spirituel, le cadre de la joie de Dieu, et en même temps le cadre de la découverte des merveilles que Dieu nous présente depuis l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment loin dans le passé et l'infiniment petit, jusqu'à admirer passionnément une petite mouche, tellement je trouvais que la miniaturisation que Dieu nous a donnée était merveilleuse. Je passerai rapidement sur les autres parties de ma vie. Ce bagage joyeux, confiant, alliant totalement la joie du Seigneur, la joie de Dieu, et en même temps la découverte du passionné du monde, m'a accompagné pendant la partie suivante de ma vie, lorsque j'ai été pasteur en France.
Je crois que si vous le permettez, on va arrêter par un peu de musique et on reprendra là. Hein.
Voilà. J'espère ne pas fatiguer l'auditeur en lui racontant ma petite vie personnelle.
J'ai retenu, moi, essentiellement, de ce que je viens d'entendre, cette initiation à l'art, surtout quand vous étiez petit, presque naturelle, et pourtant confrontée au beau dessin des cavernes. Est-ce que Nicole, qui est venue, peut nous dire comment elle est présente avec la restauration de ces fresques ?
Oui, alors il faut peut-être que je dise comment je suis venue à travailler avec M. Hélène Berger. Finalement, c'est pas lui qui m'a demandé de venir l'aider, c'est moi qui me suis imposée. Et donc je l'ai aidé à faire des photocopies et ensuite il m'a demandé de reprendre certaines fresques, de restaurer une particulièrement qui fait 5 mètres de long, qui était très très abîmée. Enfin, le papier à dessin était très abîmé, elle n'était pas peinte, les dessins avaient été reproduits sur le papier, mais elle n'était pas peinte. Et toutes les indications étaient, les indications de couleur étaient sur les calques. Donc ça m'a pris quelques mois, je me suis fait aider par une de mes sœurs qui est peintre. Et alors on a été vraiment ravis de nous trouver dans la peau d'un bushman en train de peindre.
Pour pouvoir restaurer tout ça.
Oui, alors vraiment, c'est un bonheur pour moi de pouvoir peindre et de...
Et de voir au fur et à mesure les personnages, les animaux,
oui,
renaître.
Oui, et alors moi, ce qui m'a frappé aussi au début, c'était de voir que ces peintres représentaient beaucoup d'hommes. Parce que les peintures rupestres, pour moi, c'était des animaux. Ah, oui. Et là, il y a énormément d'hommes. Alors les bushmen... En principe, ce sont deux petits hommes et ils se représentent souvent comme des personnes très élancées. Et il y a beaucoup de mouvements, c'est vraiment quelque chose, un privilège que je...
Vous nous en avez porté un exemplaire et c'est vrai, on les voit danser, il y a beaucoup de mouvements sur ce dessin.
Il y a énormément de mouvements, énormément de mouvements. Et il n'y a pas un seul homme qui soit semblable à celui d'à côté. Ils ont tous des attitudes différentes. Et vraiment, c'est extraordinaire.
Alors, c'est en cours, cette restauration ?
Non, celle-ci, elle est terminée. Celle-ci est terminée.
Elle est terminée.
Celle-là aussi. Mais vous avez encore des calques qui n'ont jamais été reproduits sur papier. Sur papier ou sur toile. Parce que moi, je crois que l'idéal, ça serait de faire sur toile. de peindre sur toile, ça serait plus maniable.
Vous préciser que vous ne rénovez pas, vous ne restaurez pas les peintures authentiques, originales, qui sont, elles, dans les cavernes, peintes sur la roche.
Et qui sont peut-être disparues, d'ailleurs.
Mais que vous travaillez à restaurer ou à remettre dans un état consultable des relevés qui ont été faits par Paul et par aussi
Victor
Ellenberger, qui était ton père.
Et oui, nous avons récolté des peintures dans 300 ou 400 cavernes différentes. Et il y a eu des expositions qui ont été faites, remarquables, au Musée de l'Homme. Et la scène que nous avons en ce moment sous les yeux, qu'on aimerait bien vous montrer, représente la fuite des petits hommes bushmen essayant désespérément de sauver leur vie. Ils sont suivis par les Noirs, des grands hommes noirs, lesquels sont dépossédés de leur territoire par l'invasion des Blancs. Dès les années 1830, les Blancs ont conquis toute l'Afrique du Sud, ont ravagé, ont anéanti des milliers, des dizaines de milliers de Bushmen, et les Bantous, obligés de quitter, sont en train de chasser leurs bœufs, très bien représentés, et le petit Bushman qui voit leur pays de montagne du Lesotho, là-bas en Afrique australe, essayent de sauver leur vie. Il y a donc dans ces peintures de Bushmen toute une histoire qui nous raconte toutes les phases de population depuis 2000 ans, peut-être en arrière, jusqu'au siècle dernier. C'est pour cela que nous avons cette passion d'étudier non seulement la peinture, mais aussi la philosophie de ces gens qui ont une culture basée sur l'intégration totale aux quatre dimensions, la largeur, la longueur, la hauteur, ou l'hauteur profondeur et le temps, sont quatre dimensions dans lesquelles on nage comme des bienheureux. À l'inverse de l'Europe et à l'inverse du monde noir, du monde bantou, les bantous, eux, de leur côté, sont intégrés totalement dans la durée, qui est un temps qui ne fuit pas du tout, un temps qui est fixe, et même n'aime pas du tout les dimensions spatiales, largeur, longueur. En Europe, on a exactement le contraire. Les dimensions spatiales font la passion, la conquête de l'espace, mais le temps, considéré comme un ennemi par les Européens, est un temps que les Africains ne peuvent pas arriver à comprendre. Pourquoi les Européens ont un temps qui est comme un vecteur, avec un passé mort, un futur inexistant et un point d'origine zéro qui bougerait chaque jour dans chaque individu. Cela leur paraît absurde et disent les Blancs, ce sont les plus malheureux des hommes. Ça, je l'ai entendu dire bien souvent, les plus malheureux des hommes, parce qu'ils ne savent jamais s'ils sont en train de vivre, si ce n'est pas déjà hier leur vie. Alors que le monde bantou, avec sa notion du temps, supprime même la notion de mort. Le mot de mort n'existe pas en langue bantou, ni en langue bushman, parce que c'est la vie. À la place de mort, on dit la promotion. Tout reste vivant, que l'on soit chrétien ou pas chrétien, tout reste vivant. Et c'est pour nous, ça a été pour moi personnellement dans ma vie, ayant perdu mes deux fils, une consolation merveilleuse de savoir que rien ne meurt. Même quand on n'est pas chrétien, on sait que la vie dure. C'est une promotion.
Vous alliez dire une joie. Une retenue. Joie.
Ce qui fait qu'une joie continuelle m'a accompagné dans la vie. Et je pense que chaque instant présent, c'est le plus beau moment de la vie. Et c'est les Bantous m'ont énormément appris, les Bushmen au moins autant, que la vie est une richesse qui n'a pas de fin.
Est-ce que c'est ce qu'on appelait la durée, ou bien
c'est oui, alors si on me pose la question de comment on peut imaginer je pense que la durée, quand j'ai une montée, étant à Montpellier, je vois le Pic Saint-Loup, si je veux que le Pic Saint-Loup soit plus près de moi dans l'espace, c'est moi qui dois y aller, c'est pas le Pic Saint-Loup qui va venir à moi. Dans le temps, c'est la même chose. Dans le temps, c'est pas le temps qui c'est moi qui voyage dans le temps. Et c'est pas le temps qui voyage à ma rencontre. Il y a donc une philosophie de la langue bushman et des langues bantoues très différentes, donc des petits bushmen qui sont des préhistoriques très petits de taille, 1m45, et les grands bantous qui ont la stature que nous avons chez nous, chez toutes ces civilisations ont donc ce que je viens d'exposer. Voilà.
Une liberté, pardon, à l'égard de la vie et de la durée, alors que nous fuyons devant le temps, ou bien nous sommes toujours angoissés de le voir s'écouler sans nous.
Ils disent, les Européens, dans leur conception linéaire du temps, où le passé est mort et l'avenir inexistant, les Blancs disent, le temps court, le temps file, mais c'est eux qui courent et qui filent et qui volent. Ça n'est pas du tout le temps. On prend l'illusion, on prend exactement la réalité, à l'inverse de ce qu'elle est.
Ils sont heureux
Il y a une joie considérable, même chez les païens, comme on dit autrefois, les non-chrétiens, lors des ensevelissements, on rit, on est heureux, on est, ça y est, il est promu. On pense aux ancêtres, 3e, 4e, 5e génération, on communie avec eux, avec un bœuf, qu'on partage avec tout le monde, ou avec un malade, s'il y a quelqu'un de malade. Et ça donne évidemment une conception très différente des regrets éternels qu'on a dans la civilisation européenne, basée sur cette idiotie du temps linéaire qui a été inventée par les Romains et qui n'est pas dans la Bible. Dans les prophètes de l'Ancien Testament, Esaïe, on peut aussi bien le mettre au passé, au présent et au futur, parce qu'en hébreu, on a heureusement aussi le temps, l'expression du temps non linéaire.
Et tout ceci se transmet de père en fils par la parole.
C'est une chaîne depuis toujours et une stabilité. La vie est vraiment une vie vécue profondément par les chants, par les louanges aux ancêtres, par les poésies. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas chez nous, où on est atterré par la soi-disant et illusoire fuite du temps qui ne fuit pas du tout. C'est nous qui fuyons.
Ouais. Alors, ça donne envie de se reposer un peu l'esprit, parce que je crois que ça pose beaucoup de questions, ce que vous venez de dire.
J'en aurai une tout à l'heure.
Question, Pierre.
Vous avez parlé de l'idiotie du temps linéaire, mais je pense quand même que c'est le temps scientifique, et vous êtes un scientifique. Il y a deux approches du temps, au moins, celle des scientifiques avec la linéarité du temps, et la linéarité qui n'a plus cours chez les psychologues, qui est le temps de l'individu, le temps de la subjectivité, qui n'est pas linéaire. Mais comment joignez-vous les deux, le scientifique en vous avec le temps linéaire, qui est celui des horloges, des instruments scientifiques, de la vie de l'univers, purement matériel, avec le temps à la fois psychologique, subjectif et spirituel de chacun d'entre nous, comme homme et comme être vivant?
C'est une question qui est difficile, je le reconnais. Je parle en tant qu'héritier ou presque participant au Bushmen. Mon père était né dans une grotte Bushmen 20 ans après le départ des Bushmen, les Kwan Kwan. Je parle aussi au nom des Bantous pour dire que votre question se pose en termes de philosophie européenne et pas du tout dans le cadre de la philosophie africaine bantoue, où les matières, toutes les choses physiques ne sont que peu importantes. Les transformations qui peuvent se passer dans l'individu qui nous donne la chance du vieillissement et du temps qui passe, ne sont pas du tout envisagées de la même manière. On n'a pas du tout l'anxiété de savoir ce qui se passera, ce qui s'est passé, ce qui va se passer demain. En Europe, on a tout le temps l'impression, quand ma télévision est en noir et blanc, qu'elle est mauvaise, il faut la balancer pour en avoir une en couleur. Quand elle est en couleur, il faut la balancer parce que mon voisin en a une qui projette même l'odeur des roses qu'on voit sur l'écran. Et ainsi de suite. Alors, c'est ça qui nous donne l'idée du temps qui fuit. C'est cet éternel bâtir, démolir. Cela, on l'a nullement dans un monde où la base de tout, c'est la stabilité mentale, morale, métaphysique, intuitive, psychologique, l'introspection réciproque que l'on pratique. C'est ça qui fait la vie. Or, ça ne s'inscrit pas dans une soi-disant durée qui bougerait. Alors, ça m'est assez difficile en tant que hybride, à la fois plein de la psychologie et la philosophie Bushman et Bantu, qui a fait toute ma vie, puisque après mon pastorat en France, qui a duré pas mal d'années, je suis retourné en mission pendant bien, bien des années, et qu'ensuite, à mon retour de France, qui était la cinquième partie de ma vie, je me suis inscrit dans, justement pour étudier, pour diffuser, discuter dans pas moins de 200 rencontres, 200 conférences à travers la France, ces problèmes du temps et de l'espace. J'en ai discuté avec un très nombre de personnes et vos questions j'y ai bien réfléchi, mais la réponse est très difficile à donner en langage et en psychologie européenne.
Et c'est tant mieux peut-être, parce que si on répondait facilement, ce serait...
Non, mais est-ce qu'on peut quand même donner un ou deux aperçus? Le temps linéaire, c'est un temps conventionnel qui a été historiquement constitué. Ensuite, il y a le compute romain. Enfin, on connaît quand même quelques éléments historiques sur l'origine de notre manière de mesurer le temps. Mais ce qui est remarquable dans ce que vous dites, c'est qu'il ne s'agit pas de choisir entre un système mathématique de mesure du temps. Il fallait bien inventer des horloges pour répondre à ce que disait Pierre. Mais d'un autre côté, ça n'est pas incompatible du tout. Et il faut voir que ce qui se déroule dans la durée vécue, c'est cela qui est le premier, je dirais, de l'expérience. Qu'ensuite il y ait des horloges, tant mieux pour ceux qui ont l'usage d'une horloge, mais celui qui n'a pas l'usage d'une horloge, comme moi, qui arrive toujours en retard, alors évidemment, ça n'a plus d'importance. L'horloge, je veux dire.
Oui, alors la vie humaine...
Le temps n'a rien changé.
La vie humaine se compose de quatre parties. C'est comme une roue. Il y a quatre parties, et à la naissance, le deuxième rayon de la roue, c'est l'initiation qui est obligatoire pour tout jeune garçon ou fille, une initiation qui est quelquefois dramatique, qui seule lui permet de rentrer dans la deuxième partie de sa vie. Le troisième moment de ce cycle, c'est le mariage, où la femme change de lignée, et l'homme est obligé change de nom, parce qu'il aurait été obligé de conquérir de hautes luttes, la preuve qu'il est courageux, etc. Il aura un nouveau nom. Et le quatrième moment de la vie, c'est ce qu'on appelle chez nous la mort, et qui s'appelle là-bas la migration. Il n'est nullement nécessaire d'avoir une horloge, un clepsydre, comme les Romains l'ont fait, eux qui ont inventé le temps linéaire. Le temps linéaire n'existait pas à l'époque de la civilisation grecque. Ça n'existait pas lors de la civilisation égyptienne. Ça n'existe nullement dans la civilisation hébraïque. Cette illusion créée, commencée par les Romains, était tellement puissante que nous sommes submergés, on imagine qu'il n'y a rien d'autre que ça. Mais il faut bien dire que cette conception porte des germes très graves qui amèneront peut-être la fin de notre civilisation comme les autres civilisations qui n'ont jamais duré plus de 3 siècles ou 4 siècles maximum. Et la nôtre, elle a commencé à la Renaissance, elle est un peu essoufflée en ce moment. Donc je ne vais pas en parler, ce n'est pas notre sujet.
Mais pourquoi pas?
On peut faire une autre émission sur ce sujet-là.
Tout a une fin, donc, finalement, non? Même les grandes civilisations.
Oui, mais alors c'est pas dans un tir linéaire que la fin, c'est évidemment très difficile en conception, en langage, en philosophie européenne, de comprendre ce que c'est qu'un temps non linéaire. Alors notre étude des Bushmen actuellement est de plus en plus à approfondir cette notion du temps qui est un temps universel, et l'espace qui est universel. Le temps et l'espace sont des amis et dans lesquels on s'intègre. Nous nous déplaçons dans le temps. Quand il y a une guérison, on se plonge dans l'ancêtre, dans la huitième génération en arrière, qu'on avait oublié, on l'invoque, etc. Puis tout d'un coup, la personne dit « Kenekeneten, moi aussi je m'y trouve avec cet aïeul ». Il y a donc un voyage, littéralement un voyage dans le temps, et qui devient présent. Et ça nous donne une force, une joie, une consolation.
Vous nous faites voyager là, dans l'espace et dans le temps. Hein?
Un Bushman qui a perdu son enfant, il va se concentrer à mort, tout d'un coup, comme une flèche, il part. Suivez le geste de ma main, si vous le pouvez, par la pensée. Il monte, il descend, il remonte, il redescend tout le corps, il arrive dans un endroit. Voilà mon enfant qui était perdu. Il a une participation, une ubiquité dans l'espace. Nous avons des animaux comme le familier, comme le chien, ou d'autres, ou les oiseaux, ont ce sens-là, mais qui est intensément conservé dans un monde tellement différent de celui de l'Europe. Je crois que nous avons gros à apprendre de la part des gens qui ne sont pas notre civilisation occidentale. Et j'ai beaucoup plus appris que ce que j'ai pu enseigner dans toutes mes années, mes 30 années d'Afrique en Afrique. 30 années en Afrique.
Et vous nous en apprenez en une heure beaucoup aussi.
Il y a le petit conte de... Est-ce que tu pourrais dire, dans la langue Bushman, le petit conte où il y a une autruche?
En langue africaine bantou, qui est très chantante et qui procède par préfixe et suffixe, on dit « Dumelangbo, shekele tabetse, ahoulou ». Bonjour à tout le monde, nous nous réjouissons que vous nous écoutiez. Mais si je parlais la langue Bushman, comme on chantait dans la caverne Bushman où est né mon père, on aurait chanté Kosana, Kosana, Kabusan, Kara, Kobe, Kabut, Kobe, Kabut, Kobe, oh, et là, oh, Kabusan. Les Bushmen deviendront un peu plus nombreux.
Il y a un rythme là-dedans, fou.
Ou bien le conte de l'autruche qui dit Kamka, Kuiten, Kitoi, Autoi, Takuiten, Hane, Kaminti, Katoi. Un homme du pays des Bushmen a tué une autruche sur le nid d'autruche. C'est très chantant, mais il faut savoir encore le prononcer et l'écrire.
Et le lire.
À faire un clic.
C'est pour ça qu'avec
Mala. Apprendre à faire un clic.
C'est pas comme le clic de l'ordinateur, là. C'est,
non.
Est-ce qu'on dit une clic ou un clic? Un clic ou une clic?
Ah, ça, c'est une question.
Grammaire européenne.
C'est pour cela que nous nous passions tellement actuellement avec ce groupe de.
Un clic, c'est quand trois consonnes ou plus sont prononcées à la fois, dans le même son.
Je devrais juste rajouter que dans mon pastorat, avant d'aller en mission, qui était la troisième partie de ma vie, j'ai conduit avec mes catéchumènes et mes paroissiens la joie spirituelle profonde qui me remplit, et en même temps la culture. On a fait des cultures sur les traditions celtiques qui étaient conservées même aux portes de Nîmes. Et ainsi de suite, la paléontologie pour les jeunes, pour montrer que leur sol était rempli de merveilles faites par Dieu. Science et foi. Science, foi et science. Et dans la mission, ça a été la même chose. Voilà. Et plus tard, la dernière partie de ma vie, la cinquième, j'espère qu'il y en aura une septième. C'est peut-être celle qui est au-delà du voile, je ne sais rien.
C'est bien cet espoir.
C'est l'espoir de tous les croyants.
J'ai été à la faculté des sciences, à l'âge honorable de 50 ans. Je me suis appliqué, moi qui avais fait les études de théologie, et suivi des cours scientifiques quand même, de m'inscrire à la faculté des sciences avec une carte d'étudiant, et de repasser passer mes examens scientifiques, la maîtrise, le DEA, le doctorat de paléontologie, et puis travailler au doctorat d'État. Et ça me servait de point de chute pour accueillir un grand nombre, je dis bien un grand nombre, d'élèves, d'étudiants, de chercheurs J'étais moi-même chercheur CNRS et école de hautes études pendant toute cette période-là, tout en étant pasteur, mais payé par le CNRS.
Un pasteur laïque, tu disais.
C'était marqué pasteur laïque dans l'allure protestante.
C'est beau, moi, ça
et j'ai essayé de reconstituer, de réconforter beaucoup, beaucoup de gens qui étaient pris au piège de la, qu'est-ce que la Genèse veut dire, est-ce que c'est un livre de science, etc.,